Bonjour. Donc, j'avais pas tout à fait prévu de démarrer comme cela, mais je résiste pas à ce petit schéma qui est d'une certaine manière peut-être l'articulation avec ce que vient de dire Patrick sur l'externalisation de l'aide. Là, on a une idée à peu près de ce que les politiques éducatives, hein, de manière générale, en France, mais ailleurs aussi, donnent comme réponse au traitement de la difficulté scolaire. Alors, particulièrement en éducation prioritaire, en tous les cas, ça a été un lieu et un terrain assez favorable. Et aujourd'hui, on voit que ça s'étend. L'école ordinaire qui n'est pas en éducation prioritaire bénéficie ou subit, je ne sais pas, à vous de voir, ces dispositifs. Donc là, on a une petite idée, je crois, de la division du travail, pour reprendre ta préoccupation. Division du travail, forcément, vous voyez, là, ce sont des dispositifs d'aide à l'étude. Alors j'ai mis des sigles, évidemment, parce que ce sont les sigles qui sont employés dans la profession, pour montrer aussi, probablement, qu'il y a une certaine opacité. En tous les cas, il y a un véritable effort de lisibilité par l'ensemble des acteurs. Je dirais de manière assez singulière, quand on est dans le dispositif, par exemple, d'ATP, comme on verra tout à l'heure, aide au travail personnel, ici. Bien sûr, ça suppose de construire des liens probablement avec les élèves qui vont bénéficier de l'aide personnalisée ou de l'aide individualisée selon qu'ils sont au collège ou au lycée. D'ailleurs, ça change de nom, on ne sait pas très bien pourquoi. Ou du plan licence qui est aussi à l'université une forme d'aide individualisée également. Ça va aussi, cet élève qui est en ATP, il va aussi probablement bénéficier de l'accompagnement éducatif du 16-18 heures. Et puis, comme il est en éducation prioritaire et qu'il y a des centres sociaux qui sont assez... je dirais dynamique, eh bien ce même élève peut aussi aller dans un centre social et puis y faire ses devoirs. Donc vous voyez, il a au moins trois lieux en dehors de la classe où il va être amené probablement à connaître une espèce de division du travail avec des acteurs différents, avec des moments, des espaces, probablement avec des logiques, je dirais, de compétences aussi assez différentes. Et puis dans un travail qu'avait d'ailleurs conduit Patrick, on voit aussi que au sein même de l'établissement scolaire, il peut avoir une heure ou deux heures d'études, prise en charge par les assistants pédagogiques, et là aussi on va pouvoir faire de l'aide au travail avec en multipliant encore une fois bien sûr des aides, des lieux, des temps, des personnes. Bon, voilà, là je crois qu'on a, je vais pas m'attarder là-dessus parce que ça sera probablement l'objet de notre travail pour une autre session, mais je crois qu'on a, une petite idée au niveau de l'éducation prioritaire. Des réponses qui sont contentes de donner à la fois sur des temporalités, des spatialités différentes, mais aussi, je dirais, avec une espèce de frénésie, de couvrir absolument toute la difficulté scolaire, puisque on va, grosso modo, pour le dire très vite, de la difficulté ordinaire, le fait que le gamin, il peut ou moins faire son travail, ses devoirs, tout simplement, avec des difficultés plus ciblées, plus marquées, par exemple ici, des dispositifs qui sont des dispositifs qui accueillent plus spécifiquement, par exemple, des élèves nouvellement arrivés en France, où on va mettre en place tout un tas de moyens pour leur permettre de s'intégrer au système, avec ici par exemple des dispositifs qui vont plutôt s'adresser à des élèves qui présentent des besoins particuliers entre guillemets, dans l'école, dans le temps scolaire, hors temps scolaire, et puis à l'extérieur, je passe. C'est évidemment quelque chose qui va nous préoccuper, voilà. Donc, moi, j'avais plutôt dans la thématique qui était développée, et puis en lien, bien sûr, avec donc Patrick et Séverine, l'idée de se dire qu'en éducation prioritaire, il n'y a pas que des élèves en difficulté, heureusement, mais que quand ces élèves-là sont en difficulté, ils ont une caractéristique première, c'est de mettre leurs enseignants en difficulté. Donc, en fait, je suis un petit peu partie de ça, et surtout de l'idée que, finalement, lorsqu'on travaille, et l'observatoire qu'on est en train d'élaborer au niveau des métiers de l'éducation prioritaire, c'est aussi de regarder sur ce zoom là qui est porté en particulier sur à la fois les difficultés des élèves et les habiletés que les enseignants vont développer pour finalement prendre en charge ces difficultés, comment ça se passe et sur quoi ça renvoie. Alors, ça je vais laisser. Alors, du côté des élèves, bon, Patrick a fait une typologie, je vais en reprendre une assez rapidement, hein, puisque pour voir d'où on parle. Alors, quelques éléments comme ça, ici, Linda et Sophia, deux élèves de troisième, collège Mallarmé à Marseille, donc on est en éducation prioritaire, on n'est pas en RAR, on est en RRS. Bien, on est sur une classe de troisième, professeure de français, elle a annoncé qu'on allait faire de la critique cinématographique et elle décide sur sa séquence et sur la première séance démarre sur le travail des connecteurs logiques. Et donc là, il y a évidemment toute une difficulté de lisibilité. Tout à l'heure, Patrick parlait de la forme scolaire. Je crois qu'on peut le dire assez de manière générale, hein. La lisibilité de la forme scolaire, c'est-à-dire à quoi on joue, hein. Lisibilité, de la tâche, du support que l'enseignant va donner pour entrer dans la tâche, de l'objectif qui est poursuivi par l'enseignant et les compétences probablement qui sont visées. Bon, voilà, je ne développe pas, mais vous voyez bien là qu'il y a des difficultés de cet ordre-là. Alors, ici, ben, on filme, hein, en classe, et puis on auto-confronte les élèves à la situation de classe qu'elles ont vécue. Et donc, je leur demande un petit peu, hein, de réagir face aux images, hein, ce qu'elles voient. Alors, un petit extrait, hein, Sophia et puis Linda. Sophia qui dit, moi, tout ce qu'elle dit, ça a pas... Voilà, c'est à moi de le remettre correctement dans ma tête, hein. Mais elle sort des phrases comme ça, après elle revient sur d'autres. C'est ça qui m'embrouille. Linda, elle va donner des devoirs, là, alors qu'on est juste à la moitié de la première heure. C'est souvent comme ça. Moi, je les fais pas, hein, je comprends rien. Non, mais c'est vrai, hein, elle explique mal. Sophia, oui, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Tout est, voilà, d'un coup, ça lui passe, une idée par la tête, il faut qu'elle nous la donne, même si ça nous embrouille par la suite. Alors moi, à la fin, je fais plus. Voilà. Un exemple, on va y revenir. Du côté de Guillaume, par exemple, Guillaume, il est toujours dans la même classe, hein. Lui, il réagit non pas sur le cours de français, mais sur le cours d'histoire. Donc, cette jeune collègue qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure, hein, Guillemette, là, qui est quasi néo-titulaire, elle fait un travail sur Primo Levi et elle a quand même eu pas mal de difficultés et là elle a décidé, hein, de rentrer dans l'épreuve du brevet, bien sûr, hein, en histoire-géographie. Et Guillaume, qui est un élève qui a redoublé, il dit franchement c'est bien, sa méthode elle est bien. Elle fait toujours pareil, un document, des questions, la correction. Comme ça, on n'est pas perdu parce que on est des élèves en difficulté. Alors ça nous aide à savoir où on est. Bon. Je passe aussi pour venir au troisième cas assez rapidement. Alors là, chez Sarah, en sixième, collège Vallon des Pins à Marseille. C'est un collège qui est là en rare, par contre, un collège assez difficile, hein, où les élèves sont en grande difficulté. Avec des résultats aux évaluations nationales assez catastrophiques, bon, voilà. Et donc là, il y a un grand sentiment d'injustice, hein, et d'incompréhension chez Sarah. Parce que, j'ai tout fait, j'ai copié, j'ai lu, j'ai eu un. Bien. Donc, elle avait fait un travail, vous voyez, elle me montre, hein, avec force détail, comme tout à l'heure, elle n'a pas travaillé avec son père, elle a travaillé toute seule, hein, mais elle me montre qu'effectivement, elle a fait ce travail, donc elle explique, hein, j'ai pris ma leçon, j'ai écrit des objectifs à apprendre, j'ai lu, j'ai écrit, etc. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer à travers ces trois exemples très très courts, hein? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Dans le premier, je crois que si on revient par exemple, hein, chez Linda et Sophia, hein, je crois qu'on touche là, mais là aussi, hein, je fais à grands traits caricaturaux pour essayer de d'avancer sur cette question. Je crois que là, on a visiblement, hein, chez ces élèves en difficulté ce que Bernard Charlot avait appelé déjà, hein, dans les années 80-90, un mode de fonctionnement binaire. Là, on a typiquement des élèves, hein, je crois, qui, vous savez ce qu'ils disaient, hein, je sais, je fais, je sais pas, je fais pas. Voilà, donc là, on voit très bien chez ces élèves cette espèce de mode de fonctionnement binaire. Première caractéristique, deuxième caractéristique, hein, pour aller là aussi de manière très très vite, hein, c'est que ces élèves-là ont quand même cette tendance à renvoyer sur la responsabilité de l'enseignant. C'est-à-dire, on renvoie, hein, du côté de la responsabilité de l'enseignant. Elle m'embrouille, elle explique mal, avec cette idée que c'est quand même de l'enseignant que tout part et dont tout dépend. Tout à l'heure, Patrick parlait de routinisation, hein. Effectivement, on voit probablement chez ces élèves-là, hein, dans leur difficulté de lecture, de lisibilité des tâches et de la forme scolaire, hein, il y a probablement aussi une difficulté à routiniser, à reconnaître des procédures un petit peu générales, hein, pour ensuite pouvoir, bien sûr, se centrer sur, par exemple, les objectifs d'apprentissage. Donc, cette absence de routinisation, d'automatisation, hein. Ça a des effets, c'est par exemple Serge Boismard qui en parle, hein, quand il parle de surcharge cognitive. Donc des élèves, alors ça c'est assez intéressant aussi, je vous apprends rien, mais où les enseignants ont toujours un petit peu l'idée de se dire, ben oui, il a pas travaillé, hein, franchement, pour avoir un, il est évident que cet élève-là n'a pas travaillé. Bon, ce que j'avais montré dans ma thèse, c'est que ces élèves en difficulté, ils travaillent beaucoup, ils se trompent d'objet, certes, ce qui évidemment justifie le 1 sur 20, mais ben, c'est ce que nous montre Justine, elle a beaucoup travaillé, hein, y compris avec son père, elle a fait des tas de choses, et donc il y a cette espèce de décalage, hein. Donc une surcharge cognitive, c'est-à-dire on a fait beaucoup de choses, malheureusement c'est les choses qu'on a faites, elles sont souvent, hélas, un peu décalées, voire complètement décalées avec les attendus de l'école. On s'est trompé d'exercice, on n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. Bien. Cette surcharge cognitive, vous le voyez là chez Linda et Sophia, hein, je fais plus. Linda, elle fait pas ses devoirs, Sophia, elle fait plus. Hein. Donc je dirais que ça amène à des formes bien sûr très diversifiées, mais là encore, hein, pour être assez caricatural et rapide, hein, ça amène soit des formes de renoncement, je fais plus, soit on le voit bien et souvent en éducation prioritaire, on a aussi ça, hein, c'est-à-dire à une autre forme qui est un peu plus virulente, c'est le pétage de plomb. Hein, le gamin qui pète les plombs, et bien sûr une des caractéristiques du pétage de plomb, c'est qu'en général ça fait péter les plombs aux enseignants. Voilà, donc là on est dans des situations un peu difficiles. Chez Guillaume, bon, ben vous êtes probablement pas surpris, hein, de voir à quel point il a intériorisé, intégré, hein, cette difficulté qui le caractérise comme si c'était sa difficulté personnelle, voilà, qui lui renvoie, ben on le sait, hein, à une image d'incompétence très forte et probablement une image de soi, une estime de soi qui est relativement dégradée. Alors je vous raconte tout ça parce que vous allez voir que les enseignants ensuite sont bien sûr très sensibles à ces choses-là et avec ici l'idée, hein, une image de soi qui est assez dégradé, renforcé, je dirais, par un malentendu, pour reprendre finalement, je résiste pas, au terme de Patrick et de Karine, de Cérine, pardon, c'est ce malentendu, c'est là encore, hein, l'idée qu'à l'école, on apprend pour produire. Voilà, ça c'est aussi une des caractéristiques fortes de ces élèves en difficulté et des élèves particulièrement en milieu populaire. Hein, on apprend pour produire alors que évidemment à l'école on produit pour apprendre. Et donc là vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup mais on travaille un petit peu à côté et donc on est toujours dans cette espèce de forme de décalage par rapport aux attendus scolaires. Chez Sarah, hein, autre caractéristique, des savoirs de surface probablement. Vous voyez ici toute une conscientisation de l'acte de travailler. Hein. Vous retrouvez exactement, je dirais, les termes du contrat. Hein. Je prends ma leçon, je fais des exercices, je copie les objectifs, je me donne comme ça, hein, des tâches. Donc une conscientisation de l'obligation scolaire de travailler. Je vous l'apprends pas non plus, évidemment. Une intériorisation du discours de l'institution, une connaissance des règles du contrat. Sur des aspects très méthodologiques, hein, d'ailleurs, mais une difficulté, bien entendu, à faire quelque chose de ces règles-là. Bien. Alors, j'ai presque envie de vous dire, là, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une culture commune, hein, j'ai presque envie de dire que ça, on le sait. Pourtant, je dirais que ces questions-là, eh bien, ces difficultés des élèves et ce qui se montre là, eh bien, ça renvoie à un certain nombre de difficultés chez les enseignants, des contradictions, des tensions, des dilemmes, des tensions, je dirais, ben, déjà par rapport à soi, hein, les choix que les enseignants vont être amenés à faire, eh ben, pour faire sortir les élèves de ce mode de fonctionnement binaire, des tensions et des dilemmes et des choix qu'ils vont devoir faire pour leur permettre d'entrer ou d'entrer dans cette espèce d'entre-deux dans l'apprentissage, hein, avec des élèves pour lesquels, ben, évidemment, entre savoir et pas savoir, ben, il n'y a pas essayé, il n'y a pas apprendre, hein, il n'y a pas d'entre-deux. D'accord? Donc, évidemment, des dilemmes et des tensions pour ces enseignants, de ce qu'ils vont mettre en place pour permettre à ces élèves d'entrer dans cet entre-deux, de les accompagner pour dépasser ces savoirs de surface, hein, un discours bien rodé, mais qui par ailleurs n'a pas d'efficacité réelle puisque Sarah a un, voyez, et puis de les amener à dépasser cette image de soi un peu dégradée et qui probablement a des conséquences assez importantes dans la poursuite de leurs études. Bien, et puis évidemment leur faire accepter l'idée que se mettre au travail, c'est apprendre, c'est une prise de risque. Hein. Bon, voilà, comment on aide les enseignants à faire ceci. Alors, ici, j'ai essayé l'appareil de la même manière que je prends de manière très caricaturale des typologies d'élèves. Hein. J'ai essayé de regarder des cas cliniques, des illustrations cliniques hein, au niveau des enseignants. Trois enseignants, Guillemette, qu'on a tout à l'heure. Vous savez, donc Guillaume me dit que c'est une bonne prof, hein. Elle explique bien, elle sait bien faire, elle fait toujours la même chose. Bon, elle était pas très contente forcément quand elle a lu ça. Hein. Guillemette, sur la question des devoirs, elle est... D'accord. Guillemette, comme tout à l'heure, hein, y a pas que les élèves qui renoncent, hein, y a des enseignants qui renoncent, et Guillemette, elle a renoncé. J'ai renoncé, c'est plus confortable parce que je m'épuisais. Alors, elle s'épuisait à quoi? Ben, à vérifier, et elle n'avançait pas. Donc, dans la question des devoirs, par exemple, hein, depuis les élèves de 6e jusqu'aux élèves de 3e, c'était pas possible pour elle. Donc elle explique avec force détail hein, que elle est obligée de passer de rang de table en table, d'aller vérifier le travail, de punir les élèves qui ne l'ont pas fait. Et puis une autre donnée dans cette division du travail, il apparaît une autre donnée, la donnée des élèves qui sont allés dans des contextes et des milieux différents où ils ont été accompagnés par des gens ayant des compétences probablement différentes et qui rentrent. Qui réintroduisent la classe avec des données qui sont extrêmement hétérogènes. Lorsque Sarah a fait son travail avec l'assistante pédagogique, ou lorsque Guillaume est allé travailler au centre social, il y a fort peu de chances pour qu'il soit tombé sur des gens qui soient tout à fait à même de l'accompagner, soit sur la division cellulaire, soit sur la question de Primo Levi. Et donc, en fait, ce que nous révèlent hein, ces jeunes enseignants, c'est la difficulté qui leur saute aux yeux, hein, c'est le terme qui dit ça, me saute aux yeux. Ils passent d'une table à une autre et ils voient tellement de choses erronées dans la production des élèves que subitement ils se disent « mais je ne vais pas pouvoir gérer cela ». Si je le gère, c'est-à-dire si je reprends tout ce qui a été fait en reprenant les erreurs qui ont été faites avec différentes sources, je n'avance pas, je m'épuise, je ne fais pas mon programme et j'ai le sentiment de faire du mauvais travail. Donc voilà, là ici, vous voyez un enseignant qui va renoncer hein, finalement à accompagner l'élève. Alors, ça pose des tas de questions, hein, c'est pas simplement un exemple. Hein. Un enseignant qui est spécialisé finalement, hein, qui va renoncer à faire du travail, alors qu'à côté de ça, on a des animateurs, des centres sociaux qui eux ne renoncent pas. Les assistants pédagogiques qui eux ne renoncent pas. Hein. Donc dans la division de travail, vous voyez, on pourrait aller encore plus loin. Hein, par qui est pris en charge ce type de travail? Bien. Deux autres cas, hein, c'est le cas de Fred et Virginie, donc ça devient un peu célèbre, comme me le faisait remarquer mon collègue et non mon ami à côté. Donc Fred et Virginie a deux professeurs qui ont en charge un dispositif d'aide au travail personnel. Ce sont des professeurs référents, vous le savez, ils sont donc déchargés d'une partie de leur enseignement. Fred est professeur de maths, Virginie est professeur de PS au collège Vallon des Pins, donc pour peut-être les Marseillais connaissent ces collègues-là. Voilà. Et donc, Fred, ici, est responsable de l'ATP. Il fait donc 9 heures de maths et il a 9 autres heures sur son emploi du temps qui sont consacrées à la gestion du travail personnel, les rencontres avec PACAM et tous les centres qui s'occupent des devoirs. Hein. Voilà. Donc, voilà ici un petit extrait. Hein. Donc, Tania, c'est une copine de Sarah. On est dans la même classe, hein. Et Tania, donc, qui est dans cette aide au travail personnel et qui dit, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire opposé par le sommet? Donc, Fred qui lui répond, où est-ce que tu peux avoir la réponse hein, à ta question? Je sais pas. Ben, regarde dans ton fichier, dans tes fiches méthodo, ça te dit où est la réponse. Alors, bien sûr, j'ai coupé, hein, ça s'éternise, ça prend une bonne vingtaine de minutes, cette histoire-là. Hein. Donc, Tania continue, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire opposé par les extrémités? Écoute-moi, tu ne peux pas avoir la réponse si tu ne cherches pas. Mais j'ai ma fiche là. Ben alors Lila, ta fiche, c'est là qu'il y a tout. Alors cette fiche, hein, vous la connaissez probablement, c'est ces fiches méthodologiques sur lesquelles les enseignants consacrent beaucoup de temps, où ils vont essayer hein, de couvrir comme ça toutes les questions que les élèves pourraient se poser lorsqu'ils sont seuls chez eux et qu'ils sont confrontés à cette situation de travail. Alors dans cette fiche, où peux-tu trouver la réponse? Eh ben vous imaginez, hein, c'est sous forme de graphique, dans ta tête, dans le classeur de mathématiques, enfin dans le classeur parce que ça se veut très général, hein, dans le classeur, dans le livre, au CDI, près des collègues, etc. Bon. Voilà ici une réponse hein, d'un enseignant et d'une élève. Hein. Je passe à Virginie, très rapidement. Virginie, elle a également une classe, c'est une classe de 5e, pas de 6e. Dans ce collège, la classe de 5e bénéficie aussi de l'ATP. Là, elle passe dans les rangs. Visiblement, il y a encore un problème de mathématiques. Les élèves souffrent sur la question des volumes. Et donc là, elle s'aperçoit qu'il y a plusieurs élèves qui rencontrent des difficultés. Elle rassemble les élèves. Alors, elle dit, attendez, on a déjà fait ça, essayez de vous rappeler, donc tout un travail sur la mémoire, essayez de vous rappeler la dernière fois, au moment où on était en ATP, on a fait un patron, rappelez-vous, bon, alors ça bouge un petit peu, allez, tiens, écoute, Yanis, retourne là, va nous montrer sur l'armoire, va nous montrer, alors, c'est quoi, une hauteur, une longueur, une largeur, vous vous rappelez, regardez comment ça marche, etc. Donc, elle revient ici, maintenant, c'est quoi le but de la leçon, avec cette formule-là, qu'est-ce que tu peux calculer, comment tu t'y prends, etc. Bien, je passe. Ce à quoi je veux en venir, là, pour avancer un petit peu sur ces questions-là de tension, c'est qu'on a ici un fond de culture commune. Je crois que tous les enseignants, quels qu'ils soient, que ça soit Guillemette qui a renoncé, que ça soit Fred qui renvoie Tania sur sa fiche, ou que ça soit Virginie qui envoie les élèves travailler sur l'armoire pour comprendre la formule du volume, on a des enseignants, évidemment, qui visent tous l'autonomie de leurs élèves. Au-delà des textes, etc., ils visent tous l'autonomie. Chez Fred, pour viser cette autonomie, il a plutôt l'idée que ce qui est efficace, parce que évidemment il va falloir un peu tordre le nez à cette question de l'efficacité. Pour lui, ce qui est efficace, c'est surtout mettre les élèves dans un travail, une posture de travail individuel, en accord avec un travail personnalisé, individualisé. Et l'aide qu'il va pouvoir apporter, elle est médiée par des outils, notamment par tout un tas de fiches et de fiches de suivi de l'élève, vous voyez, pour qu'il ait une lisibilité. Bien, notamment les fiches méthodologiques. Chez Virginie, elle, l'essentiel de l'aide, elle ne peut que passer et transiter par une dimension collective. Et elle va faire reposer son aide essentiellement sur des interactions de tutelle. Bien, je poursuis. Ce qui, je dirais, justifie quand on est en autoconfrontation croisée, c'est-à-dire quelles sont les bonnes raisons d'agir de ces enseignants, c'est assez intéressant, c'est souvent la manière dont ils conçoivent leur métier, les significations qu'ils donnent aux difficultés des élèves et ce qui est pour eux du bon boulot. Alors, sur la question de la difficulté, là on a des principes tout à fait divergents. Chez Fred, ce qui monopolise et mobilise, enfin, ce qui est au cœur même de la difficulté scolaire des élèves, c'est d'abord la dimension cognitive. Ce qui manque aux élèves en difficulté, pour lui, ce sont des modes de raisonnement généraux. C'est pas du tout la question du triangle et des sommets, c'est la manière dont les élèves sont en difficulté pour mobiliser tout un tas d'outils et pour avoir une idée comme ça générale de ce qu'il faut faire, premièrement, deuxièmement, troisièmement. D'accord. Donc, c'est pas vraiment la résolution du problème que la recherche de moyens pour résoudre le problème qui fait défaut à ces élèves-là. Du coup, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en plus de cela, nous sommes en présence, et notamment en ZEP, on le sait, on est avec des élèves qu'il appelle des élèves attentistes. Et donc, je cite, trop de gamins attendent qu'on fasse à leur place. Ils sont dans le refus de douter, d'accepter de ne pas savoir, d'avoir à chercher. Du coup, moi, je pense que mon rôle... On est là en ATP pour générer du questionnement. D'abord les élèves qui avancent, eux qui questionnent. Bien. Là aussi, à coup de hache, excusez-moi, je passe sur Virginie. Virginie, elle évidemment, il faut pas trop caricaturer non plus, évidemment qu'elle n'ignore pas ses dimensions cognitives dans la question des difficultés. Mais pour elle, ce n'est pas premier. Ce qui est premier, ce sont les dimensions affectives. C'est-à-dire que pour elle, globalement, les élèves que l'on a en ZEP, pour des tas de raisons, je vous passe, les déterminismes sociaux, etc., je passe, mais pour des tas de raisons, ce sont des élèves qui ont une image de soi dégradée, qui ont une confiance limitée en leur potentialité, en leur capacité, qui est extrêmement pauvre, et du coup, ça va générer de la peur d'apprendre, ce qui est tout à fait dramatique pour la poursuite de leurs études. Donc, elle reprend cette idée, vous voyez, d'élèves fonctionnement binaire, et elle dit, de toute façon, en ZEP, on le sait, hein, on n'est pas à Monticelli. Alors, Monticelli, c'est le lycée de référence, hein, qui est dans le 8e à Marseille, très riche, très chic, hein. Alors, les profs de ZEP à Marseille, ils disent souvent ça. Ici, on n'est pas à Monticelli, bon, ça veut tout dire. Eh ben, quand on n'est pas à Monticelli, on a des élèves, soit ils font pas. Soit ils font parce qu'ils ont le sentiment d'être capables de le faire, soit ils ferment le cahier. Moi, je suis là, et je pense qu'on est là, on le sait très bien, pour qu'ils arrêtent de fermer le cahier en disant « je sais pas faire ». Donc moi, je n'envisage pas qu'ils sortent du cours avec un doute. Bien, alors vous imaginez bien que quand on va les mettre en confrontation, hein, ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc vous voyez que là, petit à petit, hein, ce que je veux avancer avec vous, c'est on a ici des préoccupations, vous le voyez, hein, qui sont différentes, et on va avoir de ces préoccupations différentes des organisations, je dirais, de l'aide qui sont complètement divergentes. Chez Fred, on est plutôt dans une, je dirais, dans une mise en œuvre, hein, de ces dispositifs d'aide à l'étude qui sont plutôt dans l'idée de, il faut dissimuler une part de la réponse, vous reconnaissez les termes évidemment, hein, il faut retarder le temps de la réponse, il faut faire prendre conscience à l'élève de son ignorance, tous les travaux de didactique, hein, depuis Brousseau jusqu'à Chevalard, Mercier, et puis bon, pas que des didacticiens des maths, hein, bien sûr, ont beaucoup travaillé avec cette espèce de doxa constructiviste, hein, comme arrière-plan théorique, hein, qui justifie cela. L'idée finalement que l'usage des fiches, hein, pour gérer l'autonomie, c'est quelque chose de bien, un petit peu, voyez, j'allais dire naïvement, mais sans méchanceté, hein, naïvement, un peu comme si la simple contrainte d'utiliser des fiches méthodologiques allait se transformer en instrument pour l'activité de l'élève, hein. De l'autre côté, on a Virginie, hein, qui elle dit, pour aider les élèves, hein, il faut guider pas à pas, il faut faire à la place, alors je reprends ces termes, hein, faire à la place, prendre par la main, il faut garantir la certitude de l'exercice juste, il faut redonner confiance aux élèves. Et là, on est sur une logique de l'exercice, hein, qui n'est pas du tout celle de Fred, où ce qui va primer, c'est pas les fiches, mais c'est dire, montrer, vous l'avez vu, hein, expliciter, dire, montrer, expliciter. Comme si dire, montrer, expliciter, là aussi, hein, le simple usage de dire, montrer, expliciter, permettait aussi aux élèves de rentrer dans une logique de la compréhension et de la construction du sens. Du coup, quand on les fait se rencontrer tous les deux, hein, donc on montre à Fred et à Virginie le travail de Fred et ensuite le travail de Virginie. Inutile de vous dire qu'il va y avoir quelques éléments assez intéressants du point de vue de la controverse. Chez Virginie, elle reprend, hein. Laissez Tania continuer à poser des questions. Pour moi, alors j'ai réduit, mais voyez, je mets en vert. Ce sont ces termes, hein. C'est impensable, inenvisageable, inconcevable. Alors elle le dit plus gentiment parce que ça dure une heure et demie. Moi, je vous le regroupe en trois mots. Parce qu'en la connaissant, elle n'a pas envie de faire le moindre effort. De toute façon, elle a passé son temps à se recoiffer. T'as beau lui dire, va voir ta fiche, elle ne travaillera pas, elle a passé son temps à se recoiffer. Pour moi, et donc alors, évidemment, il faudrait regarder la vidéo que je ne vous montre pas, hein, mais vous savez, il y a de grands gestes, elle hésite, il y a des phrases inachevées, coupées, elle le reprend, et finalement, elle le lâche parce qu'elle a envie de lui dire, pour moi, ce que tu fais, c'est non-assistance en personne en danger. Parce que cette gamine n'a aucune raison d'aller vers cet exercice avec le sentiment des compétences qu'elle a. Personnellement, hein, moi je vois ça comme ça, je suis sur une logique différente de la tienne. Alors, voyez ça un peu à la manière de Françoise Lantôme et Christophe Hellou, hein. Ça je retrouve beaucoup dans le travail que je conduis, des enseignants aujourd'hui, hein, et particulièrement en éducation prioritaire, des enseignants aujourd'hui qui manifestent énormément cette caractéristique-là. Moi je suis sur une autre logique, en tous les cas une logique différente de la tienne. On y reviendra peut-être dans la discussion. Hein. Chez Virginie, pour Fred, hein, alors il lui, je sais que pour les élèves et pour les profs, alors lui aussi il va prendre, hein, beaucoup de sauver la face, hein, il n'y a pas que les élèves qui doivent sauver la face, hein, il y a les collègues qui travaillent entre eux qui doivent aussi sauver la face. Hein. Je sais que c'est plus rassurant de montrer, mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les gamins, ils sont tout seuls. Quand ils sont à la maison, qui va leur montrer ? Si on ne les entraîne pas, on fait quoi ? Et puis, il y a trop de gamins qui attendent qu'on fasse les choses à leur place. Première idée. Deuxième idée, tu ne peux pas corriger tous les gamins. Parce que, vous voyez, elle le corrige à chaque fois sur le cahier. C'est ce que je voulais te dire, hein. C'est, alors là aussi, il hésite, hein. Elle lui a dit non-assistance en personne en danger. Et lui, ce qu'il veut lui dire, hein, eh ben, c'est que tu es dans une belle illusion, hein. Tu es dans une illusion certes rassurante, mais en tous les cas dans un leurre terrible. Tu es en train de faire croire aux élèves qu'on peut tout corriger. Il n'empêche que lorsqu'il arrive au cours de maths, comme tu as corrigé, il ne se frottera jamais à sa difficulté. Et tu renforces ses difficultés. Bon, ben là, je crois qu'on est dans une belle controverse. Et je pense ici qu'on a, j'espère, hein, la difficulté du métier, hein, où on ne veut pas trancher de manière unilatérale. Hein. Voilà. Bon, on n'est pas très avancé. Hein. Alors, ces controverses, je dirais qu'ils sont sur un fond de débat déjà ancien. Hein, entre d'un côté mâcher le travail, hein, où les enseignants disent « moi je vais jusqu'à mâcher le travail, il me semble que c'est important », et où on va jusqu'à expliciter les buts et les moyens. Et puis de l'autre côté, bien sûr, hein, des enseignants qui considèrent que pour aider de manière efficace ses élèves, que ça soit au sein des dispositifs, mais vous voyez bien que ça réinterroge les questions de la classe, hein, eh ben, c'est laisser les élèves se débrouiller tout seuls, faire découvrir la consigne et le travail. Par exemple, voyez, par exemple, ici on est en primaire. On est en primaire, hein, sur l'école Saint-Charles, dans le dispositif d'aide personnalisée. Hein. Donc là, de 13h à 13h30, avec l'idée qu'on va anticiper sur le travail, sur le travail de l'après-midi. Hein. Alors là, pareil, hein, pour vous montrer qu'on est sur d'autres problématiques. On est sur d'autres problématiques, mais par exemple, dans la croisée entre Rodolphe et Maurice, hein, CE1 et CE2, voilà. On a, par exemple, le collègue Maurice qui est sur la découverte de la consigne, où il va consacrer beaucoup de temps pour essayer de faire deviner aux élèves à quoi on joue. Et il le dit, moi ce qui m'importe, c'est de leur donner des outils qui sont au tableau. Il y a un texte, il y a une consigne de conjugaison du verbe grandir à partir du texte où il n'y a que des verbes du deuxième groupe avec des pronoms personnels autres, et l'élève à partir de ça devra conjuguer. Et ça va durer une bonne vingtaine de minutes où l'enseignant va dire « Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais pourquoi il y a un texte? Comment vous allez l'utiliser? Qu'est-ce que vous allez faire ?» Voilà. Et ça dure très, très, très longtemps. Et là, hein, d'entrée de jeu, hein, vous voyez, ligne 80, en fait, c'est très vite, hein, dans la croisée, hein, Rodolphe qui lui dit « Mais attends, rien ne t'empêche de dire, nous, on va travailler spécifiquement sur la copie, sachant que l'objectif du jour, il est ailleurs. » Et c'est là où on a encore deux façons différentes de fonctionner. Parce qu'il lui dit, finalement, les élèves que je prends en aide, c'est parce que ce sont des élèves qui sont tellement lents au moment où ils copient, que quand on va arriver en classe, ils ne feront pas l'exercice de grammaire. Ils seront sur une autre tâche, vous voyez, ils finiront de copier. Et là, eh bien, on a encore une autre fois, hein, Rodolphe qui lui dit, mais il faut expliciter les buts, il faut dire, il faut montrer, etc. Bon, c'était juste cet élément-là. Juste pour dire que c'est pas simplement sur un seul dispositif, hein, mais le travail qu'on essaye de faire, notamment ici avec à l'INRP, hein, c'est de constituer cette espèce d'observatoire des métiers de l'éducation prioritaire, et de regarder, hein, cet observatoire, hein, alors que tout bouge, tout change, les réformes, les enseignants, les classes, la forme scolaire, hein, probablement qui demeure au cœur, hein, du métier, forcément des dilemmes, des questions, des habiletés aussi, bien sûr, hein, des habiletés, des manières de penser et d'agir le métier, voilà, qui se pose ici. Et pour conclure, hein, je crois que je renvoie un petit peu à cette question-là. Lorsqu'on est en éducation prioritaire, une des difficultés des enseignants, hein, tout à l'heure j'avais dit comment on fait pour passer du mode de fonctionnement binaire à un entre-deux, par exemple, hein, c'est, je crois, la question qui est au sein de ces dispositifs dans la division du travail, mais qui est une question de classe, finalement, où on place le curseur, hein, comment trouver une espèce de ligne de crête, hein, entre des logiques de surguidage, hein, comme Virginie, hein, qui va jusqu'à prendre le stylo, écrire à la place de l'élève, hein, à des logiques de sous-guidage, où on va laisser un petit peu l'élève se débrouiller tout seul. Voilà. Hier, je faisais une intervention auprès des conseillers pédagogiques, et je crois que ben eux aussi, hein, à un moment donné, il faut que le métier se constitue des réponses. Hein. Peut-être que, pour conclure, on peut se dire ça, c'est-à-dire que il y a probablement nécessité, en tous les cas, c'est ce que l'éducation prioritaire nous renvoie, parce que c'est peut-être un zoom plus difficile, où on rencontre plus de difficultés, et peut-être qu'on est plus à même, hein, de réfléchir de manière plus aiguë à cela. Hein. Je crois qu'il y a là l'idée, hein, de renormaliser le métier. Alors, bon, ce terme est assez, on en discutera probablement, hein. C'est-à-dire comment on peut se donner de nouvelles normes professionnelles pour pouvoir constituer, je dirais, des ressources et un répondant, en tous les cas, permettre d'apporter des réponses à des enseignants. Alors, vous voyez, les réponses, j'ai évidemment choisi des éléments très contradictoires pour voir à quel point le type de réponse est difficile, bien entendu. Mais je crois que ce sont des questions qui sont au cœur des formateurs, en tous les cas, et de l'accompagnement qu'ils doivent conduire lorsqu'ils accompagnent des équipes, et notamment des équipes en éducation prioritaire.